On va regarder justement cette étude aujourd'hui sur celui qui nous guérit. Ça fait partie des rafraîchissements que Dieu veut faire dans la vie du croyant. Parce qu'un croyant, en temps normal, quand tu acceptes le Seigneur, tu as encore beaucoup d'années à vivre. Quand tu arrives au Seigneur, tu as déjà plein de blessures que tu as vécues, puis tu vas en vivre d'autres une fois que tu es chrétien. Mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui sert Dieu et celui qui ne sert pas, entre celui qui cherche Dieu et celui qui ne cherche pas, c'est que quand tu es chrétien, quand tu es un enfant de Dieu, tu veux recevoir de Dieu une guérison à quelque part. Tu veux que le Seigneur guérisse ton cœur, ton âme, tes sentiments, tes blessures que tu as à l'intérieur et aussi ton corps. Puis là, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, que Dieu est celui qui peut nous guérir, puis qui veut nous guérir, bien sûr, puis qui a tout fait pour qu'on soit guéri aussi. Le titre du message est « Soyez rafraîchis par des guérisons du corps et du cœur ». Comme je vous disais tantôt, on a tous, un jour ou l'autre, vécu des blessures dans notre cœur, des paroles qu'on a entendues, des affaires qu'on a vécues, des choses qui nous ont déchirées, que ce soit la mortalité de quelqu'un qu'on aime, ou que ce soit simplement des chicanes avec quelqu'un, des malentendus qui tournent mal, puis qu'il y a des déchirures dans l'âme, des trahisons, il y a toutes sortes de choses qui peuvent faire qu'on est blessé intérieurement, sans compter toutes les blessures qu'on peut se faire physiquement. Puis, en tant qu'enfant de Dieu, on a la bénédiction, frères et sœurs, de croire à un Dieu qui peut nous guérir. On est toujours dans la série, dans les Actes, au chapitre 3, les versets 19 et 20, que le Seigneur nous appelle à ce qu'on puisse recevoir son rafraîchissement. Ça nous dit dans la parole de Dieu que de se repentir, de se convertir, pour que nos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Puis ça, c'est ce qu'on désire, frères et sœurs, de recevoir ces temps de rafraîchissement-là. Je crois, normalement, que quand tu es malade, puis que tu souffres, ça ne nous tente pas de continuer à souffrir. C'est pas quelque chose qu'on aime. On veut tous être soulagés, on veut tous être guéris, on veut tous que nos problèmes disparaissent. Vrai ou faux? Puis là, aujourd'hui, on va voir que Dieu a tout fait pour qu'on puisse recevoir ces bénédictions-là, puis qu'il veut le faire dans nos vies. Dans le mandat du Seigneur, quand il est venu, il y a 2000 ans, quand tu lis le Nouveau Testament, une des facettes de son ministère, c'est la guérison physique puis du cœur. Dans la parole, on voit dans Luc 4, 18, que ça nous dit que Jésus a dit que l'Esprit du Seigneur était sur lui. Ça, c'est une promesse de l'Ancien Testament, que le Messie, quand il viendra, il sera loin du Saint-Esprit. Puis ce verset-là est écrit dans l'Ancien comme quoi que le Messie viendrait, puis que l'Esprit du Seigneur sera sur lui, parce qu'il a été loin pour une mission. Puis dans ce verset-là, ça nous parle de la mission de Jésus. Puis ça nous parle particulièrement du sujet qu'on veut parler aujourd'hui, de la guérison. Il dit, il m'a loin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, puis il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La guérison du cœur, la guérison de l'âme, la guérison des blessures intérieures, de nos souffrances, de tout ce qui nous empêche de vivre la paix intérieure. Puis on continue, son onction était pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Là, on parle de la guérison physique. Fait que Jésus, voilà 2000 ans, quand il est venu sur la terre, il avait l'onction, ça veut dire qu'il avait le Saint-Esprit sur lui qui l'avait équipé pour être capable de guérir les cœurs puis guérir les corps. C'était sa mission. Qu'est-ce que Jésus a fait? Tout le long, quand il se promenait, Jésus guérissait les malades. Même des fois, il faisait des guérisons parce que l'autre pleurait. La veuve pleurait, son fils, il était décédé. Jésus a guéri son cœur à la madame en ressuscitant son fils. Mais tu vois, le cœur de Jésus, c'est pas juste guérir le corps, mais il peut guérir le corps, mais il veut guérir aussi notre cœur. C'était son cœur, puis même plus que son cœur, c'était sa mission. là, 2000 ans. Quand il passait quelque part, ça nous dit, partout où ce qui passait à Jésus, il était sensible aux souffrances humaines. C'était pas quelqu'un d'hautain puis indifférent, insensible. C'était pas quelqu'un comme cela. C'est au contraire. Tout le touchait. Quand il rencontrait des gens, il voyait la souffrance humaine, ça venait le chercher. Il était arrivé à l'envers. Dans Matthieu 8, le verset 15 à 17, ça nous dit, en parlant de comment Jésus passait partout, il dit, toucha sa main, puis la fièvre le quitta, puis il se leva, puis elle se leva, puis elle est servie, puis le soir, il en amenait d'autres qui étaient malades. Il y avait des démoniaques, plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, puis il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, puis il s'est chargé de nos maladies. Ça fait partie de la foi chrétienne, de croire que Jésus peut et veut s'occuper de nos maladies. Il veut s'occuper de nos souffrances. Même si ce sera un mauvais esprit qui te rend malade, il veut chasser cet esprit-là pour que tu puisses être délivré, guéri, relever, que tu sois heureux, que tu sois béni. C'est ça, ça c'est un temps de rafraîchissement que le Seigneur donnait à ceux qui avaient la foi. C'est arrivé à des moments qu'il est arrivé dans une ville, dans la ville où ce qui était élevé, puis les gens croyaient pas en lui, puis il n'y a pas pu faire là de gros miracles, le monde croyait pas. Mais en temps normal, quand il allait dans une ville, ça disait il amenait tous les malades qu'il y avait dans cette ville-là. Puis ça nous dit, il guérit tous les malades. Ça veut dire qu'il y en avait 2 ou qu'il y en avait 17 malades, ils étaient tous guéris. Pourquoi qu'ils étaient guéris? Parce que Jésus avait le pouvoir de guérir les malades. Il avait reçu l'onction pour cela. Puis ça, ça faisait partie de son ministère, de ce qu'il avait à faire partout où il passe. Il prêchait la bonne nouvelle, puis il guérissait les malades. Ça fait partie de son ministère. Quand je dis malade, c'est pas juste ceux qui souffrent dans leur corps, c'est ceux qui souffrent aussi dans leur âme. Jésus, là, il rencontrait des gens, il rencontrait des foules, puis ça le touchait de voir les gens malades. On voit ça dans Matthieu 9, le verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Ému de compassion, là, ça veut dire que ça lui a tellement touché de voir cette foule-là qui était abattue, puis il était écrasé, parce qu'il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Les gens étaient abattus, étaient languissants. C'était pénible de vivre dans ce temps-là. Ils vivaient pas d'un loisir comme aujourd'hui. Il y avait à peine de quoi manger dans la journée. Puis quand les gens t'ont écrasé comme ça, ça laissait pas Jésus indifférent. Jésus regardait les foules, puis tellement de compassion dans son cœur que s'est mis à pleurer pour tout le monde. Ça lui faisait de la peine, ça lui faisait souffrir de voir la souffrance humaine. Ça nous parle aussi pour nous en tant que chrétiens, comment est-ce qu'on devrait être. En tant que serviteur de Dieu, on veut être comme Jésus, puis de devenir un petit peu plus sensible aux souffrances de ceux qui nous entourent. Mais Jésus était profondément touché de voir la souffrance humaine, puis il y avait aussi ce qu'il fallait pour pouvoir les soulager. Quand il a vu ce besoin-là, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Ça nous dit tout de suite, il a constaté le besoin. Dans ces versets-là, là, il a constaté le besoin que les gens étaient abattus, les gens étaient languissants, étaient écrasés, il y en avait sûrement des malades là-dedans, comme des brebis qui ne savent pas où s'en aller, ils ne savent pas quoi faire, il n'y a pas de médecin comme aujourd'hui avec la carte soleil pour payer le frais, là. Il n'y avait rien, il n'y a même pas les soins qu'on a aujourd'hui. Les gens étaient comme désespérés, puis il n'y avait pas personne sur qui compter, il n'y avait pas de berger. Jésus, ça l'a touché, puis tout de suite, il a senti le besoin de la foule, puis il a institué une solution pour ces gens-là. Ça nous dit dans Matthieu, juste l'autre verset plus loin, dans Matthieu 9, 37. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, puis il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Tout de suite, il a vu qu'il était comme des brebis sans berger. Il était tout abattu. Ça lui prend un berger. Ça lui prend quelqu'un qui les guide, qui va lui donner les encouragements, qui va les bénir, qui va les conduire, qui va lui donner des paroles pour les fortifier, puis lui donner des promesses de Dieu, puis les amener à grandir dans la foi, pour s'accrocher au Seigneur, grandir en espérance, etc. Ça prend des gens qui prêchent l'Évangile pour soutenir tous ces gens-là. Jésus, il voyait le besoin, puis tout de suite, il a dit aux disciples, « Priez pour cela, pour que le Seigneur envoie du monde s'occuper d'eux autres. » C'est ça le cœur du Seigneur, ce qu'on voit là-dedans, comment est-ce que le Seigneur veut régler les problèmes. Parce qu'on sait que si ça va mal dans le monde, c'est à cause du péché, puis c'est à cause du diable, puis c'est à cause aussi des mauvaises manières de vivre qu'on apprend dans le monde, puis qu'on s'en rend même pas compte, on ne sait pas quoi faire, on fait n'importe quoi jusqu'à temps qu'on réalise, quelqu'un vient nous parler du Seigneur, puis là, notre vie commence à changer. Mais on voit là-dedans le cœur du Seigneur de vouloir, à pas vouloir que les gens restent dans leur misère. C'est ça qui est le point qu'il faut regarder là-dedans. Bien, si on continue juste l'autre verset, au verset 10, au chapitre 10, verset 1, « Puis ayant appelé les 12, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, puis de guérir toute maladie, puis toute infirmité. » Il leur a donné le pouvoir de guérir pour rencontrer besoin de sa foule-là. Jésus n'a pas juste pleuré sa foule. Il a pourvu que c'est que ça prenait pour que la foule soit soulagée, guérie, délivrée de la puissance des ténèbres. Ça prenait du monde qui allait prêcher la parole de Dieu puis les enligner dans le chemin du Seigneur. C'est ça qui est le cœur de Dieu. Vouloir prendre soin de ceux qui ont besoin. Jésus connaissait la position générale des gens de ce monde. Il vivait dans ce temps-là, mais en étant Dieu, il connaissait d'où venait le problème, pourquoi que les gens étaient languissants et abattus. Il savait que tout le monde est sous la condamnation, puis sans remède pour nous sauver. Puis ça, cette condamnation-là, on l'a héritée à cause d'Adam et Ève. Si on souffre, s'il y a de la souffrance dans le monde, c'est à cause qu'on est sous la condamnation qu'a reçue Adam et Ève. Parce que Dieu avait institué au début, avant la création, la solution pour guérir ceux qui souffraient. Il y avait l'arbre de vie. Ils pouvaient aller manger de l'arbre de vie puis de vivre éternellement. Il n'aurait pas connu de maladie physique, il aurait été guéri, puis il n'aurait pas connu la mort physique, on aurait toujours été en santé en mangeant de cet arbre-là. C'est parce qu'on était sans condamnation, privé de l'arbre de vie, que là, tout le monde souffre, tout le monde est languissant, puis tout le monde finisse par mourir. C'est ça le point. Dans Genèse 3, 22, pour vous rafraîchir la mémoire, l'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, parce qu'il venait de manger du fruit défendu. » Puis là, Dieu lui a dit, « Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de la vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Fait que Jésus savait que la souffrance des humains était due, qu'il n'y a pas de solution dans ce monde pour être bien. Aujourd'hui, il donne des pilules pour comme amortir, pour pas que tu ressentes ton problème. Il ne guérisse pas les problèmes, il attend. Il essaie de t'aider à ce que tu t'en sortes, mais avec des moyens humains qui ne sont pas les vrais moyens que Dieu veut utiliser aujourd'hui pour t'en sortir. Ça c'est comme une béquille. Mais même si tu as une béquille, quand tu boites, ça guérit pas ta jambe, une béquille. Ça fait juste t'aider à te porter. Jésus lui veut guérir la jambe. Jésus veut guérir les corps, puis veut guérir les cœurs. C'est ça qu'il a fait au monde. Par tout ce qu'il passait, il offrait de prier pour les gens pour qu'ils soient guéris. Il a envoyé ses 12 disciples faire cela, puis il a envoyé ses 70 faire cela, puis puis les envoyer à l'endroit où ce que lui était supposé d'aller. C'est la mission des chrétiens d'aller parler de la bonne nouvelle, puis de prier pour les malades. Dans l'Ancien Testament, il y a une prophétie qui annonçait que le Messie viendrait pour payer pour la dette de nos péchés. Ça, c'est encore un autre problème qui devait être réglé. Parce qu'à cause de nos péchés, la colère de Dieu était sur nous. Frères et sœurs, c'est pas que Dieu nous aimait, puis juste pour s'accommoder, il va mourir, mais c'était pas grave. Non, Dieu est en colère. Il dit, celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, puis la colère de Dieu demeure sur lui. Fait que tout le monde était sous la colère de Dieu, puis là, Jésus, il est venu, puis il a payé ce qu'il fallait pour nous sauver de la colère de Dieu. Ça, c'est une partie de son sacrifice à la croix. Qu'il est mort pour payer, pour comme prendre sur lui la colère de Dieu, qu'on était dû de subir à cause de nos péchés. Mais ça, c'est une partie de la croix. Mais la croix, elle a permis beaucoup plus que cela pour nous, pour recevoir beaucoup plus que cela. Jésus est venu aussi pour nous offrir une solution à nos souffrances et à nos douleurs, à nous offrir la guérison par ses souffrances et sa mort. Jésus est venu pour nous offrir une solution aussi pour nos maladies, nos souffrances, qu'elles soient physiques ou dans notre cœur. Jésus veut guérir notre cœur brisé puis notre corps qui est blessé. Dans Isaïe 53, des versets 4 et 5, c'est encore des prophéties à propos de Jésus qui étaient écrites dans l'Ancien Testament, mais ça annonçait prophétiquement le ministère de Jésus. Ça nous dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, puis c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Voyez-vous, dans ce passage-là, c'est vraiment précis comme parole, par exemple, pour nous parler de la mort, les souffrances de Jésus dans sa vie et sa mort sur la croix. Ça avait un but, tout cela. C'est pas juste fait ça comme il fallait qu'il fasse ça. Non, il fallait qu'il le fasse pour accomplir ce qui était écrit, parce que c'est une mission de Jésus. C'était une de ses missions de payer pour les péchés, puis les maladies et les souffrances. C'est ce que ça dit dans ce texte-là. Comme on regarde au verset 4, dans Isaïe 53, 4, ça nous dit, « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. » Quand on parle du mot « souffrance », là, c'est le mot hébreu, là, c'est « maladie ». Tous les maux qu'on peut subir, le mal qu'on a, on a mal ici, mal là, les irritations, les douleurs, les calamités, mais ça dit, c'est nos souffrances, nos maladies, tout ce qu'on peut subir comme qui nous fait mal, mais il les a portés dans son corps. Il les a souffert à notre place, dans sa vie. C'est pas pour rien que Jésus, il avait des périodes tellement angoissées, là, qu'il suait du sang. C'est pas parce qu'il était content d'être là. C'est parce qu'il est en train de porter la souffrance de l'humanité en lui. Le châtiment de Dieu tombait sur lui. La punition de Dieu pour les péchés de tout le monde a tombé sur lui. Ça y a fait mal. Puis dans le même verset, il dit, c'est nos douleurs qu'il s'est chargé. Le mot douleur, c'est souffrance, nos plaies. Des souffrances, le chagrin même, physique ou mental. Tout ce qui nous fait mal, Jésus a tout porté dans sa vie jusque dans sa mort. C'est quelque chose quand tu penses à ça, la grandeur des souffrances de Dieu, Puis en plus de ça, c'était annoncé avant qu'il vienne. Puis Jésus, quand il est venu, savait que c'était pour cela qu'il s'en venait. Dans Hébreu, il dit, je n'ai pas sorti le verset, mais il parle comme, il s'offrait, il dit, me voici pour accomplir ce que Dieu s'attendait de lui. Le me voici, il dit dans le livre, c'est il est question de moi. Me voici pour faire au Dieu ta volonté. Il venait avec un cœur à vouloir venir parce qu'il savait qu'il fallait que ça soit fait pour soulager l'humanité, plus payer pour leurs péchés. Il savait d'avance qu'il était pour être l'agneau de Dieu qui vient pour enlever le péché du monde. Puis il s'est offert en sacrifice, puis a accepté de le subir pour moi et pour chacun de vous, puis chacun de ceux qui vivent sur cette planète. Toutes ces promesses sont données pour tous, pour tous ceux qui croient, tous ceux qui veulent croire en lui. On peut recevoir de lui nos soulagements, de nos maux, nos guérisons, puis aussi le pardon des péchés, bien entendu. Puis en plus, il nous donne en plus plein de promesses sur tous les sujets. C'est quelque chose. Sa vie à Jésus, puis son œuvre d'expiation à la croix, c'était aussi pour prendre sur lui nos souffrances. Quand on regarde, là, on a regardé le verset 4, regardons le verset 5, ça nous dit encore la même idée. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est un châtiment qu'il subissait là, c'est une punition. Puis ça dit, on le sait, qu'il était sans péché, il ne devait pas en vivre de punition. Mais il a accepté d'être puni, d'avoir la colère de Dieu qui tombe sur lui à notre place. Le châtiment, c'est le châtiment que Dieu voulait nous infliger. C'est la mort. Mais lui, il est venu, puis il a accepté. Il a dit, Père, je vais prendre leur place, puis je vais subir le châtiment de ta colère. Puis ça a tombé sur Jésus, puis il a souffert dans sa vie. Puis on le voit dans d'autres passages, que Jésus, bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Fait qu'il a souffert toute sa vie, ce gars-là. C'est ce qu'on voit aussi dans un autre verset, un homme de douleur, habitué à la souffrance. C'est toute sa vie qu'il a souffert. On en connaît des gens qui souffrent longtemps, mais Jésus, lui, c'était toute sa vie qu'il a souffert. Je ne sais pas si ça peut vous consoler, mais croyez aussi que ces souffrances que Jésus subissait, c'était les vôtres, les nôtres. Il les a pris sur lui pour qu'on puisse recevoir des soulagements venant de Dieu. Tant qu'on parle du châtiment, le mot que là, ça veut dire châtier, correction, corriger, la ceinture quand tu frappes un enfant pour lui donner la punition. Mais la discipline, le châtiment, la correction que nous méritions, il l'a pris sur lui. Ça nous dit le châtiment qui nous donne la paix. On en parle assez souvent de cela aujourd'hui. Le shalom de Dieu, quand on se dit shalom, ça veut dire paix. On souhaite la paix. On souhaite la paix intérieure puis la paix dans toutes les sphères de notre vie. Mais ça, c'est le shalom de Dieu. Puis ça nous dit dans ce passage-là, le châtiment qui nous donne le shalom est tombé sur lui. Fallait que ça coûte quelque chose à quelqu'un pour que je puisse être en paix aujourd'hui. La paix de Dieu, ça n'est une bénédiction de Dieu qu'on a, de marcher dans la paix, de se sentir en paix. Une paix intérieure, puis aussi en paix avec Dieu, sachant qu'on est pardonné et qu'on est sauvé. On s'inquiète pas, on va-tu être sauvé ou on sera pas sauvé? On le sait qu'on est sauvé, puis c'est pas à cause de nous, c'est à cause de l'œuvre de Jésus qu'on est sauvé. Puis on l'a saisi, puis on l'a. Tant qu'on garde la foi, nous l'avons. Abandonnons pas cette foi, il n'y a pas rien d'autre ailleurs qu'on peut s'accrocher pour être sauvé. Il nous donne le shalom. On a déjà parlé, le shalom, c'est le mot paix, là, c'est être en bonne santé, être, avoir de l'amitié avec les autres, parce que être en paix avec les autres, c'est la même chose aussi. Être en bon état, une manière favorable, puis heureux, prospère, tranquille, heureux d'avoir rien à craindre, puis être complet, même, ça veut dire la perfection. Le shalom, là, ça veut dire même d'une vie parfaite. Fait que, on peut vivre tout ça, là, une vie parfaite, un shalom. Paix, là, c'est même au niveau de la santé. On peut le vivre. Dieu nous l'offre. Là, c'est à nous à le saisir par la foi. Faut le croire que Dieu a envoyé son Fils payer pour nous. Autant que pour nos péchés, que pour nos maladies. On n'en parle pas assez souvent de la guérison offerte par Jésus. Puis ça fait qu'on y croit pas. On croit facilement qu'on est pardonné pour aller dans la vie éternelle. Mais croire pour être en santé, dans l'âme comme dans le corps, on a de la misère à y croire. Mais ça fait partie des saintes écritures. Dans l'Isaïe 53, le verset 5, si on continue la phrase, il dit « C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Ces meurtrisseurs, là, c'est ses plaies, ses contusions. C'est ça que ça dit dans le texte. C'est parce qu'il a reçu des coups que nous, on peut être guéris de nos contusions, nos bleus qu'on a sur le corps, nos souffrances, un bras cassé. Lui, c'est parce qu'il les a subis que nous, on peut être guéris, qu'on peut le recevoir d'être guéri, être rétabli, des blessures par des coups aussi, les coups qu'on aura mérités ou qu'on a reçus. Il les a payés pour qu'on n'a pas besoin de recevoir de coups de Dieu pour nos péchés. Ils ont été pardonnés, voilà 2000 ans, à la croix. Maintenant, je marche aujourd'hui, puis je demeure sur le sang de Jésus. Dieu te frappera pas si tu es sur le sang de Jésus, tu es pardonné. La colère de Dieu est passée. Dieu n'a aucune colère envers ceux qui marchent dans la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand tu es en lui, tu es sûr d'être sauvé. Gardons cette foi-là, frères et sœurs, mais ça s'étend plus loin que ça. Notre foi devrait aller aussi jusqu'à nos maladies puis nos souffrances intérieures comme physiques. Ça nous dit dans ce verset-là, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Le mot « guéri » là, c'est guérison, être guéri, rétabli, assaini, devenir saint. C'est autant aussi pour pardonner que pour réparer, penser, comme un job d'un médecin qui veut guérir quelqu'un. Mais Dieu veut nous guérir par cause de l'œuvre de Jésus. C'est accessible. C'est comme si toutes les bénédictions sont là, puis il faut apprendre à aller saisir ces affaires-là par la foi. C'est là. C'est accompli déjà. Puis il y en a plusieurs qui l'expérimentent. Ce sacrifice-là est accompli il y a 2000 ans, puis là, 2000 ans plus tard, Jésus est le même. Il n'a pas changé. C'est le même cœur que Jésus, ce qu'il pensait il y a 2000 ans, là, comment est-ce qu'il voyait la souffrance, comment est-ce qu'il voyait les gens, qu'est-ce qu'il voulait faire pour intervenir dans leur vie, là. Il a le même cœur encore aujourd'hui. Son sacrifice, il est encore valide pour nous, puis il veut qu'on s'accroche à sa grâce. Qu'on s'accroche à ses grâces. De compter que Dieu pourra nous accorder encore une grâce de plus, d'être pardonné, si on l'a à chaque jour quand on demande pardon, mais d'être guéri aussi. C'est un bobo à quelque part. Parle-y-en de tes affaires. Le problème que je vois, c'est que on est soulagé par des pilules, par des médicaments, puis on ne demande pas à Dieu. On n'implore pas. Dans ce temps-là, il n'y avait pas de médicaments. Fait qu'ils cherchaient quelqu'un pour les guérir. Mais aujourd'hui, on se contente d'un soulagement des médecins. Ce qui fait qu'on n'implore pas Dieu pour la guérison. C'est pour ça qu'on n'en voit pas souvent. Dans Hébreux 13, versets 8 et 9, ça nous dit, « Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. » Son cœur qu'il avait, il y a 2000 ans, c'est encore le même cœur aujourd'hui. Sa puissance qu'il avait il y a 2000 ans, c'est encore la même puissance aujourd'hui. La même onction qui est sur lui. Puis même quand il est ressuscité, il a même dit, « Tout pouvoir m'a été remis dans le ciel et sur la terre. » Puis là, il nous dit à nous, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Mais tout pouvoir lui a été remis. Il est le Tout-Puissant. Il l'était avant de venir. C'est lui qui a créé toute chose. Mais il a quitté sa toute-puissance comme qu'il a quitté ses attributs de toute science, puis il a son omniprésence, il a tout quitté pour venir en forme d'un simple homme. Après ça, après sa résurrection, il a tout réobtenu ce qu'il avait, même sa position qu'il avait auprès du Père. Il a tout réobtenu, puis il était revêtu de la gloire qu'il avait auparavant avant que le monde fût. Il était là, puis il a réobtenu sa gloire. Il est le Tout-Puissant. Puis ce qu'il a promis il y a 2000 ans dans sa mort sur la croix, mais c'est encore en efficace pour aujourd'hui. C'est quelque chose qu'on a le droit d'y croire, puis on a le droit de le saisir par la foi, puis de le confesser, puis de demander à Dieu, puis de continuer à le demander, que ce soit pour des guérisons, que ce soit pour des délivrances, tous les sujets. Il a promis de le faire pour qu'on soit dans le shalom de Dieu. Puis même, si on continue le verset, quand il dit « Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement », là, ça nous dit au verset 9, « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce. » La grâce, là, c'est de croire que Dieu va encore faire des cadeaux. Ton cœur doit s'affermer dans la grâce. Toujours t'attendre à ce que Dieu te fasse d'autres cadeaux. À cause que Jésus a tout payé, il y a 2000 ans. T'as le droit. Oublions les doctrines diverses qu'il peut y avoir, là. On a le droit de demander à Dieu d'être guéri, puis de le réclamer, puis de continuer à le réclamer, puis d'y demander, puis de s'accrocher, puis de s'attendre à ses cadeaux à cause que Jésus a tout payé. C'est encore là pour aujourd'hui. Il s'agit de les saisir par la foi. Jésus nous appelle à aller à lui. Il y a plein de passages qui nous le disent d'aller à lui, mais un entre autres qui a encore rapport avec ce qu'on parle, c'est dans Matthieu 11, 28, quand Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. » On a peut-être le cœur fatigué, ou le corps fatigué, on est comme dessus des poids, des fardeaux, c'est pesant, on devient même comme la foule, c'est languissant, c'est dur la vie. On est écrasé sous des poids. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Il va nous donner du soulagement. Il va nous alléger notre vie. Il va enlever des motons là, qui nous payent ses épaules. Quand tu viens à Jésus, il enlève tes péchés, mais dans la Bible, ça nous parle de se débarrasser de deux affaires. Nos fardeaux et nos péchés qui nous enveloppent si facilement. C'est écrit dans Hébreu. Les fardeaux, là, c'est des choses qu'on porte inutilement. Oh, qu'est-ce que je vais manger demain? Où est-ce que je vais aller dormir? Ou qu'est-ce que je vais faire demain? Il dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Chaque jour suffit sa peine. T'as assez du fardeau de ta journée d'aujourd'hui. Les fardeaux d'hier sont passés, puis si t'en as accumulé, mais là, donne-le au Seigneur. Il dit d'aller à Jésus. Venez à moi, c'est Jésus qui parle. T'as des fardeaux, t'es fatigué, t'es chargé, donne-y. Fais-y confiance. Il l'a promis dans plein de passages de prendre soin de nous. Faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières et des supplications. À une autre place, il dit, approchez-vous devant le trône de grâce pour obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Le trône de grâce. Dieu, il y a plein de cadeaux à faire encore. C'est un trône de grâce. Des grâces et des cadeaux. Il veut bénir ses enfants. Il veut bénir ceux qui lui appartiennent. Il veut nous combler. Il veut nous soulager aussi. Il veut nous débarrasser de nos fardeaux. Qu'on arrête, qu'on y remette à lui. Apprenons à y remettre. Apprenons pas à remettre ça au médecin. Oui, on peut aller voir un médecin se faire soigner, mais en premier, allons voir Dieu. Puis disons au Seigneur, « Seigneur, j'ai telle et telle affaire, puis tu le sais, puis je te demande pardon, puis je te demande de me changer, puis je te demande de m'enlever cela, puis de me guérir, puis je m'accroche sur l'œuvre de Jésus à la croix qui est mort pour mes fardeaux, mes blessures, tout ça. » On peut y remettre à Dieu. Puis Dieu attend ça, il dit « Venez à moi ». Il y a plein d'invitations, plein de promesses dans la Bible qui nous parlent d'aller à Dieu pour être secouru. Parce qu'il veut nous secourir. Il veut pas qu'on reste dans un état de souffrance continuelle. Dieu nous invite à regarder à lui dans un cœur humble afin de recevoir la guérison de notre corps et de notre âme. Puis ça, c'est important, le cœur humble. Si tu vas là à aller voir Dieu, « Seigneur, moi, je suis ton enfant, puis tu me dois ça. Si un de mes enfants me parlera de même, il n'y aura rien. » Mais dans la vie, c'est de même. Ben Dieu avec. Puis là, s'il vient un enfant, il me dit, « Papa, t'auras pas, tu pourras-tu m'aider? » Puis il me le demande, il ne cherche pas à m'imposer quelque chose. Il me le demande bien gentiment. Moi, je serais heureux de faire ce que je peux faire pour y aider. C'est de même, ça marche. Dieu avec, c'est de même. L'humilité dans le cœur là est importante quand on y demande de quoi. Des fois, c'est notre orgueil qui nous empêche de recevoir parce qu'on demande de quoi, puis on ne sait pas comment parler. Puis on se pense qu'on mérite tout. Non, on ne mérite rien. Puis tout ce qu'on en demande, c'est en suppliant. En demandant, dans ce temps-là, il se met à genoux devant une autre personne pour demander quelque chose. Puis aujourd'hui, si on se parle, elle est bien dure puis bien effrontée. C'est pas de même qu'on doit se parler, surtout pas envers Dieu. Dieu est le créateur de l'univers. Puis nous, on est juste une petite poussière sur la planète, puis on se pense, bien bon, il faut apprendre à s'humilier. Il y a un verset dans Osée, chapitre 6, le verset 1 à 3, 1 à 2, ça nous dit une promesse. En réalité, ça parle comme si ça serait des gens qui se parlent ensemble pour être guéris. Il dit, venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans deux jours. Le troisième jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. C'est super un passage de même. J'ai rarement entendu quelqu'un me parler de cette façon-là. Mais on devrait se parler de même, comme si Dieu... Il est déjà prêt à nous bénir. C'est rien qu'une question, nous, qu'on se décide d'aller à lui pour lui demander. Ça dit, les deux, il dit, venez, retournons à l'Éternel. Il nous a déchirés, mais il va nous guérir. Il a frappé, mais il va bander nos plaies. Il va nous rendre la vie dans 2-3 jours. Puis là, on va être relevé. Puis là, on va pouvoir vivre devant lui. C'est vraiment quelque chose de super. C'est une confession de quelqu'un qui a de la foi. Il croit que son état de pécheur, c'est dû à lui-même. Excusez. Son état de pécheur est dû qu'à lui-même, puis son état de maladie aussi. Comme si Dieu l'aurait puni, puis la personne, même si elle ne sait pas qu'elle ne fait des péchés, elle n'a pas de péché réel dans sa tête, elle l'avoue qu'on est tous des pécheurs. Puis Dieu, il est juste en ayant frappé. Mais Dieu, il va nous guérir. Parce qu'on va à lui. On y confesse. Puis Dieu, il va nous tendre les bras. Puis ça dit dans ce passage-là, il va nous guérir. Il va bander nos plaies. Puis le troisième jour, il va nous relever. Puis on va vivre devant lui. Ça, c'est la bénédiction de Dieu. Puis il faut croire que c'est pour nous, ça, avec frères et sœurs. Tout le monde peut vivre cela quand tu appartiens au Seigneur. Si tu penses comme cela, puis que tu es prêt à le faire. Puis on le sait aussi qu'un jour, quand Jésus va revenir, bien, on va tous recevoir une guérison complète. Dans la Bible, ça nous dit, on est semé infirme, mais on va ressusciter plein de force. Tant que Jésus va revenir, il va nous ressusciter, on va être plein de force. Il n'y aura plus d'infirmité. On va être un corps qui ne souffle plus, ni intérieurement, ni extérieurement. C'est une belle promesse dans Malachie 4:2. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, puis vous sauterez comme les veaux d'une étable. Les veaux, ils sortent, puis ça swing. Ils sautent parce qu'ils sont contents. Ils sont libres. Mais c'est de même qu'on va être quand Jésus va venir nous chercher. On va être dans les gens les plus heureux sur la planète. Si on croit qu'il l'a fait là, faut croire aussi l'autre bout qui a dit qu'il pourra en faire ici même des guérisons, des délivrances. On va finir par un dernier passage qui est une belle promesse du Seigneur dans le psaume 34, les versets 17 à 19. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Si on cherche vraiment à vouloir obtenir une délivrance de nos détresses, il y a une condition. Il faut crier. Pas crier des noms, pas crier après un autre, là. Crier le secours de Dieu, de demander au Seigneur, de le supplier, de lui demander de vous aider, puis de continuer, lâchez pas. Et Dieu, il dit, Dieu fera promptement justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. C'est ça que ça dit dans le Nouveau Testament. Il va nous faire promptement justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit. Lâchons pas de crier jour et nuit, puis Dieu va faire promptement justice. Le verset 18, l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Je parlais de la guérison du cœur. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il veut guérir ceux qui sont dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Puis dans une règle de grammaire, là, il y a toujours des exceptions. Des promesses avec. Ça dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Toujours, puis on pourrait rajouter, sauf ceux qui y croient pas. Ça fait partie, ça c'est à cause d'autres versets qu'on peut rajouter. Il y a toujours des exceptions d'une règle de grammaire, mais dans les versets bibliques aussi, il y a des conditions, puis il faut croire que Dieu nous offre ses guérisons. Puis si vous voyez quelqu'un, vous connaissez quelqu'un qui n'atteint pas ses guérisons, au lieu de le blâmer, priez avec, encouragez-la, joignez-vous à 2, 3, rajoutez à 4, à 5, à 20 pour prier avec, puis jeûnez avec pour que, pareil comme les paralytiques, il est à 4 qu'ont descendu le paralytique devant Jésus. Ça parle de l'idée qu'on peut être plusieurs en train de soutenir une personne qui a besoin de sa guérison. Puis Dieu va le faire. Dieu va le faire. C'est dans l'unité ensemble, se tourner en suppliant le Seigneur qui nous accorde encore des cadeaux. Vous savez que dans l'Église, il y en a qui souffrent. Commençons à prier pour ceux qui souffrent. Par supportant, à réclamer, Seigneur, tu l'as promis, t'es mort sur la croix, t'as payé pour, tu t'es chargé de nos maladies, de nos infirmités, puis t'es le même encore aujourd'hui. Puis on a toutes les raisons de croire parce qu'on a des promesses qui nous disent que Dieu veut le faire. Puis il va le faire, parce qu'il dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. C'est encore une autre promesse, ça, qu'on peut s'appuyer. Ceux qui ont la foi vont s'accrocher à des passages comme ça, puis de croire au secours de Dieu. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. On proclame ta parole, Seigneur. On croit en tes promesses. Nous savons que tout ce que tu dis dans tes promesses, c'est oui et amen. Puis merci pour ces promesses-là. Puis merci d'avoir accompli tout ce que ça prenait pour qu'on puisse les obtenir. Merci déjà pour ton cadeau de la vie éternelle, du pardon de nos péchés. Merci pour ton salut. Mais aujourd'hui, Seigneur, je te prie pour tous ceux qui souffrent dans l'Église, que ce soit dans leur corps, que ce soit dans leur âme. Je te demande une guérison complète, Seigneur. Un soulagement. Tu dis ceux qui crient à l'Éternel, que l'Éternel entend, mais Seigneur, entends nos requêtes. On te prie pour tous ceux qui souffrent dans l'Église, pour ceux qu'on connaît, même qui sont pas là aujourd'hui. On te demande une guérison complète dans le précieux nom de Jésus. Merci, Seigneur, de ce que tu vas faire pour eux. Un complet rétablissement. Dans 2-3 jours, ils vont vivre pour toi, puis ils vont être dans la joie. Seigneur, on remet nos ventres à tes mains. Continue à nous faire grandir dans ta parole. On te rend la gloire et que te revienne dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.